Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
La rencontre Barrette-Durocher.
On savait que la question finirait par se poser à un moment donné de façon plus concrète. Ben, on en a un bel exemple dans le journal La Presse ce matin. On apprend qu'il y a eu au moins 3 cas de personnes non vaccinées qui avaient contracté la COVID sous une forme très grave et qui ont eu besoin d'avoir une greffe de poumon. Est-ce que ces gens-là sont passés avant des gens vaccinés, pleinement vaccinés? Quel genre de question morale ça soulève? C'est de tout ça que Marie-Claude Barrette avait envie de nous parler ce matin. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Sophie. Écoute, il y a des grandes questions morales là-dedans. Là. Moi, je lisais ça ce matin, puis je me sentais interpellée. Puis en même temps, je me disais, je n'aimerais pas être à la place du personnel soignant, de ceux qui prennent des décisions, parce que c'est un choix extrêmement déchirant. C'est 3 patients non vaccinés ou partiellement. Puis on donne l'exemple. Écoute, ça m'a. On donne l'exemple d'une femme. C'est pas son vrai nom, Suzanne, 49 ans. Elle revient de voyage l'été passé et elle tombe malade. C'est une mère de 5 enfants. Elle est pas vaccinée. Et son mari dit qu'elle était pas vaccinée parce qu'eux, ils font plus partie d'un groupe que t'es médicamenté à la dernière minute. Une fois que t'es malade, puis elle disait en forme, elle mangeait bien, elle dormait bien. Donc, elle voyait pas l'importance de prendre le temps d'aller se faire vacciner. C'est ce que son mari raconte. Et déjà là, tu pars en voyage, tu n'es pas vacciné. C'est dur de ne pas juger. Puis en même temps de considérer la gravité de ce qu'elle vit encore, ben c'est difficile. Puis tu sais c'était quoi l'image qui me venait, Sophie?
Vas-y.
C'était celle de Maxime Bernier là qui prenait une marche l'année passée là. Tu sais, il y avait une manifestation qui disait moi je suis en forme, je m'entraîne, je mange bien, donc pourquoi j'aurais besoin d'un vaccin pour combattre un virus comme la COVID?
Voilà.
Et malheureusement, ce message-là a fait écho chez beaucoup de personnes.
Exactement. Mais je suis tellement contente que tu l'amènes de cette façon-là parce que on prend bien soin dans l'article de La Presse de ce matin de dire ce ne sont pas des gens qui sont anti-vaccins et ce ne sont pas des complotistes. Je suis d'accord que peut-être ces gens-là ne sont pas promenés avec une pancarte disant le vaccin fait pousser un troisième bras en plein milieu du front. Mais il reste que si t'es maman de 5 enfants et que tu n'es pas vaccinée parce que tu considères que ta santé est très bonne, ben ça s'appelle être contre les vaccins. Je m'excuse, on fait juste jouer sur les mots en disant ils sont pas anti-vaccins. Mais quand t'es rendue non vaccinée, quand t'es mère de 5 enfants, je m'excuse parce que tu considères que les vaccins ils sont pas bons pour toi?
Mais le message de « on est en forme » là, a quand même fait écho chez plusieurs personnes. Moi, j'en ai eu dans mon entourage. Puis je me disais, mais c'est pas possible. Tu sais, je veux dire, c'est aussi pour les autres qu'on le fait parce qu'il faut se souvenir que la première vague de la COVID, c'était les personnes plus âgées, c'était les personnes qui étaient déjà malades. On avait peur des comorbidités. Tu sais, c'était comme associé à une santé un peu plus chancelante. Et finalement, on s'est vite rendu compte que la COVID pouvait être contractée par n'importe qui. Puis on savait pas chez qui ça allait avoir le plus d'impact, malheureusement. Alors, moi, je lisais ça, puis c'est Maxime Bernier qui m'est arrivé dans...
Tout à fait, c'est très juste.
Ce message-là était dévastateur, beaucoup plus, je pense, a eu beaucoup plus de répercussions qu'on aurait pu le croire. Donc, cette femme-là se retrouve à l'hôpital et ses deux poumons ne fonctionnent plus. C'est quand même, ça a été 5 semaines dans le coma parce que ses deux poumons étaient atteints par la COVID. On se dit que c'est rare, mais c'est arrivé partout dans le monde. C'est pas des effets secondaires, mais comment la maladie s'installe. Et finalement, ben, on s'est rendu compte que cette femme-là avait tellement besoin d'oxygène qu'elle ne pourrait plus vivre sans respirateur. Donc, vite arrive la possibilité de la double greffe des poumons. Et c'est à ce moment-là, quand arrive une décision comme ça, c'est arrivé chez 3 patients au CHUM, quand arrive une décision comme ça, on peut imaginer ce que ça crée quand on est autour d'une table, parce qu'on sait c'est quoi la liste des greffés. T'as une liste régulière et t'as une liste d'urgence où vraiment la vie des patients est en jeu. Parce qu'en fait, c'est souvent une question de vie ou de mort quand on parle de greffe, quand on parle de greffe du poumon, entre autres. Donc, ces personnes-là ont été mises sur la liste d'urgence. Donc, ça veut dire qu'ils ont passé devant d'autres personnes
voilà.
qui étaient probablement vaccinées. Alors, c'est là qu'arrive le conflit moral de cette situation-là. Toi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça, ben, je veux dire, c'est difficile là, comme situation.
Ben, c'est très difficile, puis je lisais ça ce matin, puis évidemment, je me mettais dans la peau de quelqu'un, mettons, toi-même, ou ton amoureux, ton amoureuse, ton père, ton fils, peu importe,
ouais.
Est sur la liste d'attente et a fait son bon devoir de citoyen, a eu ses trois vaccins, s'est bien comporté, etc., et se voit dépasser dans la file. Puis après, donc je me disais, je comprends cette frustration-là, elle serait tout à fait légitime. Puis après, je me suis dit, est-ce que c'est pas le meilleur exemple que justement on vit dans un système démocratique où toutes les vies sont importantes, c'est-à-dire que les médecins dans le système de santé québécois, leur préoccupation, c'est de sauver des vies. Donc, ils commencent pas à dire « Bon, toi, t'es non vacciné, donc on ne te soignera pas. » Et je trouve que ça, c'est le plus bel exemple de solidarité humaine qu'on a au Québec. Et j'aimerais ça que des gens, justement, comme Maxime Bernier, ou des gens comme Éric Duhaime, qui arrêtent pas de dire qu'on vit dans une dictature, puis que c'est absolument épouvantable qu'on traite les non-vaccinés comme des parias, puis des citoyens de seconde zone, c'est l'occasion pour ces gens-là de dire « Ben non, regardez, les non-vaccinés, on les traite tellement de la même façon que les autres, on est tellement solidaires comme société, qu'on va justement les faire passer en priorité, ces gens-là, parce qu'ils ont besoin qu'on sauve leur vie. » Tu comprends? Je trouve que c'est un argument fabuleux
oui.
pour démonter complètement les théories des complotistes puis des gens qui disent qu'on vit en dictature.
Ben, moi, je sais pas où la dictature. Parce que présentement, si on a autant de mesures sanitaires, c'est à cause que notre système de santé ne tient pas le coup présentement, c'est difficile. On protège notre système de santé, c'est ce qu'on est en train de faire tous. Et pourtant, les non-vaccinés, ils ont accès comme les vaccinés. Il n'y a aucune discrimination basée sur la vaccination présentement dans notre système de santé. Et s'il y en avait là, peut-être qu'on pourrait entendre ces arguments-là, mais tant qu'il n'y en a pas dans le système de santé, tout ce qu'ils disent, ça n'a aucun sens parce que c'est ça. La pierre angulaire présentement, c'est notre système de santé. Puis tu sais, moi, je parle avec plein de monde, puis il y en a, je te dis, qui arrêteraient ça. Là, ils demanderaient le passeport vaccinal à l'hôpital, tu comprends? Tu sais, il y en oui. a qui sont tellement tannés des mesures que tu te dis, ben là, à un moment donné, ça va faire, mais on n'en arrivera pas là. Tu sais, je pense qu'on est mieux de demander le passeport vaccinal au Canadian Tire qu'à l'hôpital, on s'entend là. Mais, mais tant que ces gens-là ont des soins, personne peut dire qu'on vit dans une dictature parce que c'est la pierre angulaire et contre la COVID, où ça se passe, là, ben c'est dans les hôpitaux. Et tant que les hôpitaux sont ouverts à eux, je ne sais pas comment on peut utiliser le mot dictature ou encore on ne connaît pas la définition de ce mot-là. Parce que moi, quand je lis que les médecins, les spécialistes, les infirmières, les infirmiers s'assoient autour d'une table et vivent des grands remous intérieurs en disant « Mais qu'est-ce que c'est, eux, ils les voient, les patients. Pourquoi elle plus qu'un autre? Pourtant, elle n'était pas vaccinée. Donc, ils doivent passer par-dessus ce qu'ils vivent eux-mêmes dans leur vie pour dire, non, on est ici pour soigner ceux qui en ont besoin. Fait qu'eux, ils doivent aussi, tu sais, ça doit pas être facile, mais en même temps, ils sont là pour sauver des vies. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien qui a changé comme ça dans le service hospitalier. Quand quelqu'un oui. se présente à l'urgence, il est traité de façon équitable. Et ça, je pense que c'est pas facile pour tous, mais ils arrivent à le faire quand même.
Oui, puis tu sais, même quelqu'un comme Anne Cazabonne, en tout respect pour Anne Cazabonne, un de ses gros arguments quand elle avait fait ses fameuses sorties sur Facebook, puis quand elle s'était ouais. filmée, qu'elle avait fait des petites vidéos, c'est qu'elle disait le vaccin, c'est de la marde, excusez-moi, mais c'est ça qu'elle disait, parce que c'est un ouais. vaccin qui divise et qui fait qu'il y a deux classes de citoyens, puis on n'arrête pas de s'en prendre aux non-vaccinés, puis de les montrer du doigt, puis il y a de la discrimination. Ben non, Madame Cazabonne, il y en a pas. Là où ça compte vraiment, il y en a pas. Est-ce que oui, on fait une discrimination envers les non-vaccinés pour leur permettre de rentrer dans différents endroits? Oui, mais là où ça compte vraiment, C'est-à-dire que quand on vient le temps de sauver des vies, on ne la fait pas, cette discrimination-là. Donc, arrêtez de votre discours de peur, puis arrêtez votre discours de... Donc, le discours de division, il vient des gens qui s'opposent aux mesures sanitaires,
oui, parce que,
bien plus que le reste de la société civile.
Il y en a pas dans les écoles, il y en a pas dans les pharmacies, il y en a pas dans les supermarchés. Je veux dire, là où on a besoin de tous aller, là, tout le monde peut y aller. Le passeport vaccinal ne s'applique pas dans ces lieux-là. Il s'applique dans les lieux où c'est pas obligatoire à ta survie, là. Fait que on est loin de la dictature. Puis en même temps, là, une chance qu'il y a, moi, je trouve que pour les vaccinés, ceux qui se protègent et qui protègent les autres et qui protègent notre système de santé, ben c'est le temps qu'il y ait une discrimination positive pour eux aussi. Parce que c'est qu'à un moment donné, tu peux pas demander à une partie de la population, à la grande majorité d'une population de vivre sous restriction pour une partie qui s'en fout complètement. Et en plus, dès qu'on parle d'eux, on se fait insulter, là. Tu sais, il y a pas de lien possible, là. Si on parle de ça aujourd'hui, là, on va recevoir des insultes d'un paquet de monde, là. Et tu sais, on voit la mère qui a eu un père qui demandait à ce que ses enfants soient vaccinés, et la mère a été débutée en cours parce qu'elle disait que son enfant allait recevoir des cellules d'un fœtus mort dans le vaccin, puis en plus qu'elle allait avoir une puce. Tu sais, je veux dire, c'est des arguments, là, ça n'a aucun sens, là, tu sais, je veux dire, on est rendu qu'on ne sait plus quoi inventer pour dire que le vaccin vaut rien, mais quand on regarde ces trois cas-là du CHUM, tu sais, le mari de cette Suzanne qui dit elle regrette de ne pas s'être fait vacciner, là, ben je peux pas croire que ça n'a pas une valeur à un moment donné pour les non-vaccinés. Tu sais, je veux dire, elle, c'est pas une anti-vax, c'est juste qu'elle disait, ben moi, je suis en santé, il y en avait un problème. Tu sais, tu pars en voyage, puis tu sais, c'était beaucoup de choses, tu te dis, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de lumières qui se sont allumées? Mais en tout cas, je pense qu'elle veut en allumer plusieurs lumières avec son histoire.
Mais tu sais, à chaque fois qu'il arrive quelque chose comme ça, on se dit « Ah, ça va allumer les lumières, puis ça va convaincre les récalcitrants. » Puis tu sais, je me souviens par exemple de cette jeune fille qui s'était retrouvée à l'hôpital, puis sa mère avait été interviewée à Denis Lévesque, tu te rappelles?
Ouais.
Puis c'était vraiment comme un cri du cœur. La dame était dans son auto devant l'hôpital, puis elle pleurait parce qu'elle disait « Bon, ma fille, on sait même pas si elle va arriver à s'en sortir ou pas. » Puis là, je me souviens, écoute, c'était il y a des mois de ça. Puis là, on se disait, bon, ben, c'est ce genre de témoignage-là, une émission comme Denis Lévesque, ben là, les récalcitrants, ils vont arriver à pleine poche, là. Les centres de vaccination vont être remplis de monde. Ouais. Ben, on se retrouve en janvier 2022, puis il reste encore quand même 500 000 personnes qui sont pas vaccinées, pas une dose, pas rien du tout. Alors, je sais pas si ces 500 000 personnes-là ne parlent ni français ni anglais ou regardent pas la télé ou lisent pas les journaux ou je sais pas ce qui se passe dans leur tête.
Mais tu sais, je lisais les journaux ce matin, puis il y a eu un vox populi, puis une dame a dit, ben oui, moi je m'en viens faire des commissions parce que ma voisine est âgée, puis elle est pas vaccinée. Puis là, ben, parce que elle a comme, je sais pas, elle est pas capable de sortir de chez elle, mais je me dis, mais pourquoi cette voisine-là ne l'aide pas à aller se faire vacciner? Tu comprends,
oui.
Tu sais, comment ça se fait? Parce que cette dame-là, cette âgée, est encore à risque. Et il y a des choses comme ça où il y a des cas isolés. Est-ce que eux, on pourrait les prioriser puis dire, on va aller les chercher? Est-ce qu'on peut donner le vaccin à domicile? Tu sais, j'essaie de voir parce que là, on est rendu, on travaille sur les 500 000. C'est ce qu'on voit que Lionel Carman essaie de faire. Mais on dirait que de juste parler avec un haut-parleur à ces 500 000 personnes-là, c'est pas ça qui va marcher. C'est vraiment, je pense qu'il faut cibler les sous-groupes de pourquoi ils sont pas vaccinés. Puis c'est pas tous parce qu'ils pensent justement qu'ils vont nous pousser un bras dans le front. Écoute, moi, j'ai une dame qui continue de m'écrire qu'il me reste quelques mois à vivre, là, tu sais, parce que j'ai été vaccinée. T'sais, elle est convaincue de ça. Fait que je pense qu'il y a des cas irrécupérables, mais je pense qu'il reste encore des gens. C'est peut-être l'isolement. Alors, comment on peut y arriver? C'est ça la question. T'sais, moi, cette dame-là, j'aurais aimé ça dire, mais donnez-nous l'adresse, on va aller la chercher. Si elle veut se faire vacciner, on va. Écoute, dans les élections, quand il y a une campagne électorale à la journée des élections, les partis politiques vont chercher les gens partout là pour les faire voter là.
Oui, oui, on appelle ça faire sortir le vote. Et évidemment, on le fait. Il y a même des fois des autobus devant les résidences pour personnes âgées. Si on les sort pour aller les faire voter, on peut sûrement les sortir pour les faire vacciner. Ou alors, comme tu dis, aller les vacciner chez eux, chez elles. Écoute, je regardais des chiffres ce matin dans le New York Times. Aux États-Unis, 75% des morts, c'est des gens qui avaient plus de 65 ans. Des gens qui sont morts de la COVID. Donc, c'est, partout à travers le monde, ce sont les personnes âgées qu'on essaye le plus de protéger. Donc, l'argument de dire, bon, ben, tu sais, je peux pas sortir de chez moi, il faut trouver des façons. Écoute, Marie-Claude, on l'a effleuré un tout petit peu, puis c'est pas nécessairement le sujet dont on avait choisi de parler aujourd'hui, mais quand tu dis que notre conversation qu'on a en ce moment va nous attirer des courriels haineux, moi, je te le dis, ça fait, je sais pas, ça fait 12, 13 ans peut-être que j'écris dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, et l'enflure verbale, le degré de haine des courriels ou des commentaires sur les médias sociaux que je reçois, là, c'est du 22 sur 20. Là. Moi, je n'ai jamais vécu ça. Même dans les périodes où j'ai été le plus controversée, là, mettons en 2012 avec la grève étudiante ou différents dossiers sur lesquels je me suis prononcée, c'est épouvantable. La haine qui est dirigée vers nous en ce moment, moi j'ai jamais vécu ça.
Puis est-ce que ça finit par t'atteindre tout ça, Sophie, quand on en reçoit autant sur une aussi longue période?
Ça ne m'atteint pas, mais ce que ça fait, c'est que ça me dit, ça me fait peur de tu sais, la cocotte minute là, je sens qu'elle est prête à exploser. Puis c'est pour ça que quand le gouvernement annonce des allègements de mesures, je me dis, ben ils le font vraiment in extremis avant que la cocotte explose, là. Parce que moi, je m'en sers plus comme un baromètre de comment une partie de la population se sent. Parce que moi, honnêtement, là, je me suis fait une carapace. Puis moi, la façon que j'ai trouvé, c'est de rigoler avec ces gens-là. Il y a un monsieur qui m'a écrit des commentaires super insultants en me traitant de maudite française. Mon Dieu, ça faisait longtemps, je l'avais pas entendu, celle-là. Et le monsieur s'appelle Noël. Alors, je lui ai cité Joyeux Noël. Tu sais, j'essaie de répondre par l'humour, mais surtout ce que ça me dit, c'est le degré de crinquage des gens. Il me semble que les gens n'ont jamais été aussi crinqués. Et ça me fait peur, Marie-Claude. Pas pour moi, mais pour la société dans laquelle on vit.
Mais on commence à être crinqués des deux côtés de la clôture, quand même.
Oui.
Mais moi, c'est ce que je remarque. Depuis le 30 décembre, pour moi, il y a un avant-après le 30 décembre.
Oui, c'est vrai.
La conférence du 30 décembre est vraiment arrivée, pas à minuit moins une, mais à minuit et une. Où tout était prêt pour le lendemain, où on pensait encore voir quelques membres de notre famille. Et finalement, ça a été fin de recevoir. Et les gens avaient pris la peine d'aller se faire vacciner. Il y en a qui avaient dit à leur famille, toi, tu viens pas parce que tu n'es pas vacciné. Il y avait, après ça, ben c'est terminé. Il n'y a plus rien. Et ça, je pense que cet espoir-là, cette lumière-là qui avait été allumée, s'est faite. Il n'y a pas eu de gradation, on l'a éteinte d'un coup, et là, on s'est ramassé dans la noirceur, et ça, je pense que ça a mis beaucoup d'impatience, et c'est le temps que les commerces, qu'on parle de réouverture, puis la discrimination de avec le passeport vaccinal, ben si on a un passeport vaccinal, ben on peut-tu s'en servir, puis le montrer? Qu'est-ce que, tu sais, oui, c'est plus de difficultés pour les commerçants, mais à quelque part, c'est une paix d'esprit, puis c'est aussi je trouve à quelque part une justice pour ceux qui sont rendus à leur deuxième et troisième dose, qui respectent les mesures. C'est la façon de se sortir aussi de cette grande noirceur dans laquelle nous sommes présentement. Et moi, c'est hier, on l'a dit, c'était mon anniversaire, mais tout ça pour dire que j'ai parlé à plusieurs personnes au téléphone. Puis tu sais, il y en a que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé. Et c'est clair qu'il y a une grande lassitude. Il y a personne qui dit « Ah, moi, ça va super bien ». Personne m'a répondu ça, tu comprends? Parce que là, on est privé de tout. Donc là, c'est le temps là, d'enlever la clôture, puis de nous laisser vivre. Et qu'on en mette des mesures de protection, qu'on en mette des détecteurs de codes vaccinaux partout, parce que moi, je suis fière de le montrer, mon code vaccinal, puis ça me dérange pas d'attendre si on me le demande, parce qu'au moins, ça veut dire que si j'attends quelque part, c'est ouvert. Tu sais, tout le monde a hâte de retourner au cinéma, a hâte de retourner au théâtre, a hâte de retourner faire du sport, a hâte de retourner au restaurant. On a hâte de revivre présentement, et on a l'impression qu'on se fait insulter par des gens à cause de qui on est empêché de vivre présentement.
Tout à fait.
Parce que c'est ces gens-là qui font que notre système de santé est en train d'exploser. Notre système de santé allait pas bien. Mais là, on a traversé la ligne où vraiment, où la ligne qu'on ne voulait pas franchir, on l'a franchie. Puis, c'est pas à cause des vaccinés. Alors, moi, je me dis, laissons-nous vivre au moins nous. Puis les autres, moi, ça me dérange pas là, qu'il y a des barrières pour les non-vaccinés. Ils peuvent aller à l'hôpital, ils peuvent aller à l'épicerie, ils peuvent aller à la pharmacie, voilà. Ils peuvent aller à l'école. Puis
non
le reste, ils prennent en ligne, qu'est-ce que tu veux?
Ben oui, non seulement ils peuvent aller à l'hôpital, mais ils vont être soignés si leurs soins, s'ils nécessitent des soins d'urgence, comme une greffe des poumons. Imagine-toi de se dire quand même, parce que pour qu'il y ait une greffe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit un donneur. Alors imagine ouais. Si le donneur c'est quelqu'un qui a fait une bonne vie, qui s'est préoccupé des autres, et que ces poumons-là se retrouvent dans le corps de quelqu'un qui, on doit le dire quand même, en étant non vacciné, c'est un petit peu concentré sur son nombril, il n'a pas pensé au nombril des autres. Je trouve qu'il y a quand même une leçon humaine là qui est assez spectaculaire. Marie-Claude, encore une fois, joyeux anniversaire, puis dès la semaine prochaine, je pense, tu vas pouvoir aller au restaurant fêter ça. Merci beaucoup, Marie-Claude.
Merci, bye-bye.